Subaru.com.
La météo présentée par Aquavilla, votre allié en plomberie et plancher. Découvrez Aquavilla, 1000 produits en inventaire permettant une livraison rapide à prix imbattable. Aquavilla, aussi admirable qu'abordable.
Open mic. Avec Marceau et Audrey Pinchot.
Oh boy! On parle de plein de sujets à chaque fois que Danny vient faire son tour en studio. Danny Morissette, qui est un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec. Comment ça va, mon ami?
Écoute, ça va très bien.
Content? Ben oui, content que tu sois avec nous autres. On parlait justement de cette policière-là, quelqu'un qu'on connaît, qu'on a en commun. Catherine, qui avait une intervention à faire sur la 73. Puis malheureusement, elle est tombée sur un gars qui voulait pas se faire arrêter cette journée-là, qui était armé. Catherine est en train de mettre la plaque de l'individu qu'elle venait d'intercepter sur l'ordinateur. Et le gars a eu le temps de sortir sa carabine de chasse et tirer directement sur Catherine. Moi, j'ai vu les images hier passer. Et la balle a atteint le coussin de tête de la policière. Mmh. Et elle a eu juste le temps de se pencher pour éviter la balle. Son doigt, je pense que c'est le doigt, celui-là, c'est le fuck you, là.
C'est le majeur.
Le majeur a été touché par la balle pour ensuite entrer dans le coussin. Elle a encore des problèmes avec son doigt. Ses yeux, elle a reçu des éclats de vitre dans les yeux. Puis le procès de son agresseur a débuté au palais de justice de Saint-Joseph. Les policiers, la fraternité qui était présente avec elle pour essayer de l'assister dans tout ça. C'est quelqu'un qui était ma collaboratrice pendant quelques années, Catherine Giroux. Et dans le temps, elle était au service de police de la ville de Sainte-Marie-de-Beauce par la suite. Service de police de Sainte-Marie-de-Beauce, c'est... a arrêté, puis tous les employés qui étaient là sont partis pour la Sûreté du Québec et Catherine était à Saint-Joseph maintenant. Quelle histoire quand même! T'as-tu déjà vécu ce genre de situation-là, de t'être fait tirer dessus? C'est quoi qui vous passe par la tête?
Écoute, oui, ça m'est arrivé une fois. Ouais. Pour Catherine, moi aussi, je la connais très bien. J'ai travaillé avec elle lorsque j'étais au crime majeur. C'est une excellente policière. Tantôt, Yann, on parlait des 3F, hein, fuir, figer, foncer. Catherine, elle, a pensé à reculer, elle n'a pas figé, elle a réussi à avoir les 5 premières lettres d'immatriculation du véhicule, ouais. Ce qui a permis l'arrestation du suspect.
Parce qu'avec les éclats de verre, elle en a reçu quelques-uns dans les yeux, ce qui fait en sorte qu'elle ne voyait plus rien. Donc, elle a mis la marche arrière du véhicule de police, puis elle a pesé sur le gaz pour s'éloigner le plus possible. Puis l'autre, il ne savait pas trop ce qui se passait, fait qu'il a sacré son camp, heureusement. Puis on l'a retrouvé plus tard à Saint-Georges.
Si elle n'avait pas eu le temps, justement, d'entrer les quelques lettres d'immatriculation qu'elle a eu le temps d'entrer, on retrouvait probablement pas le gars, là.
Probablement pas, peut-être avec les caméras du MTQ. L'enquête aurait été plus compliquée à tout le moins, mais belle vivacité d'esprit d'une excellente policière, je le répète encore. Puis pour répondre à ta question, on va parler tout à l'heure de phénomènes inexpliqués ou bizarres. T'sais, moi, ça me fait penser un peu à Pulp Fiction, dans le sens que Catherine, c'est quoi les chances que la balle atteigne le siège arrière puis qu'elle ne soit pas touchée? Puis qu'elle a la chance ou le réflexe de se pousser par la suite, là. C'est quand même spécial. Mais tout à l'heure, on va parler de ça, des phénomènes expliqués. Mais dans mon cas, moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais à Grande-Vallée et puis on allait régulièrement dans un petit village. Je sais qu'on avait une maison, je ne le nommerai pas, là, mais on avait un gars très connu avec sa femme. Puis c'était violence conjugale par-dessus violence conjugale, donc... Contrairement à Catherine, c'était la routine d'aller là. Et puis, cette journée-là, j'étais un peu dans le blanc. Encore un appel. C'était en heure de route de se rendre là.
C'est quoi être dans le blanc?
Ah, c'est parce que dans la police, il ne faut jamais être dans le blanc dans le sens que faut jamais penser « Ah, encore un autre appel, encore... » Il faut toujours être
jamais
alerte.
Sur le pilote automatique un peu.
Voilà.
OK, je comprends. Excuse-moi, continue.
T'sais, on parlait d'interception. On fait 15 interceptions en moyenne par patrouilleur par jour. La journée ou le moment où c'est qu'on est dans le blanc, c'est probablement le moment où c'est que l'imprévisible peut arriver. Là. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, d'être toujours alerte. Et dans ce cas-ci, moi, j'étais arrivé, faire une longue histoire courte, sur les lieux. Et puis, le suspect en question m'attendait au deuxième étage. Je ne l'avais pas vu. Puis, tout à coup, j'ai entendu un coup de fusil, de chasse. Et puis, j'ai vu la poussière apparaître à environ 2-3 pieds de moi. Je me suis levé la tête, je l'ai vu. Et là, l'individu m'a dit « Morissette, le prochain coup, je te manquerai pas. » c'est un avertissement. Donc, moi,
il voulait te manquer, là. Il voulait juste te faire peur.
Il voulait juste me faire peur. Okay. Et j'étais jeune policier à ce moment-là à Grande-Vallée, c'est fin des années 90. Ce que j'ai fait, le backup était à une heure et quart de route. J'étais seul. À ce moment-là, on patrouillait seul, encore aujourd'hui, deux jours, mais le soir, le poste n'était même pas ouvert. Donc, j'ai reculé, je suis allé un peu plus loin, j'ai appelé du backup et on a procédé à l'arrestation de l'individu par la suite. Sur le coup, ça ne m'a rien fait, mais c'est par après. Quand tu as réfléchi à ça, quelques jours plus tard, tu dis, ouais, ça aurait pu être ma journée. Ouais,
je débutais ma vie, je débutais ma carrière, j'aurais pu me faire tirer là parce que je répondais à un appel où... dans le fond, vous voulez juste sauver des vies, vous autres-là. Là. Vous voulez aider, puis il y a des gens qui peuvent vous tirer dessus pour diverses raisons. Tu as certainement entendu parler de cette vieille histoire-là du chef de police de la ville de Sainte-Marie. Il y a de ça plusieurs années.
Avec l'autre policier.
Qui a été malheureusement tué. Lui, c'est un de ses chums qui habitait sur le bord de la rivière. J'ai encore la maison en tête, puis je ne veux pas la cibler parce que c'est d'autres personnes maintenant qui habitent dans cette maison-là. Mais le chef de police qui reconnaît l'adresse de l'individu qui est en crise, puis il dit, mais voyons, c'est un de mes chums. T'sais. Les policiers étaient déjà sur place, puis on ne savait pas ce qui s'était passé à l'intérieur de cette maison-là. Ce qu'on sait, c'est qu'on avait entendu des coups de feu, mais c'était-tu quelqu'un en Beauce? Bon, des fois, il y en a qui peuvent essayer leur arme et tout ça, mais de façon sécuritaire. Là, mais les policiers avaient été appelés sur place. Donc, tous les policiers étaient autour de la maison, puis le chef de police qui arrive, qui dit, ben là, moi, je vais y aller le voir, c'est un de mes chums, c'est quelqu'un que je connais bien, s'est approché du suspect, paf, il l'a tué de suite.
C'est-tu...
Quand on est rentré dans la maison, il a dit, il avait tué sa femme, il avait tué sa petite fille.
Mon Dieu.
Et sa petite fille était dans le garde-robe. Puis moi, je me suis fait raconter cette histoire-là quelques années plus tard, parce que j'habitais pas à Sainte-Marie à ce moment-là. Puis sur la petite... il y avait comme une petite cabane pour enfants là, à côté de la maison. Mm-hmm. Puis il y avait le nom de la petite fille qui était encore inscrit sur la petite cabane. Donc, c'est dire que, tu sais, même si c'est ton chum, même si c'est quelqu'un que tu connais, il peut t'arriver quelque chose. Et dans le cas du chef de police de la ville de Sainte-Marie, ça lui est arrivé, puis il est décédé.
C'est une histoire terrible. Puis Danny, est-ce que justement c'est plus risqué, moins risqué d'agir, d'intervenir dans une situation où est-ce que tu connais la personne qui est désorganisée?
Dans un sens, c'est moins risqué parce que le lien se fait souvent mieux avec cette personne-là. Mais là, tu as mentionné en crise. Donc, quand la personne est en crise, il faut quand même redoubler de vigilance parce qu'on ne sait pas jusqu'où il peut aller.
C'est ça.
D'où la raison pour laquelle... Souvent, dans des prises d'otages ou des personnes barricadées, les gens vont se poser la question, comment ça, vous ne demandez pas au père de la personne qui est barricadée ou à un enfant de prendre contact avec lui, justement parce qu'on veut minimiser les risques, parce que ça va aller soit d'un bord ou de l'autre.
Mm-hmm. C'est pas un gage de réussite, même ça pourrait aller dans la mauvaise direction.
Exact.
Je comprends.
Yann, tu me fais penser justement avec ton exemple de policier, du chef de police, je me souviens.
J'ai la date, c'est le 28 avril 1995. Oh. Puis le chef de police à l'époque s'appelait Denis Nadeau.
C'est terrible comme histoire.
Mais les vieux de la vieille, puis c'est encore chaud malgré toutes ces années. De mémoire, c'est dans les années 80. On avait un policier de la ville de Sainte-Foy, à l'époque, c'était la Sûreté municipale de Sainte-Foy, qui faisait des vols dans des dépanneurs. Ça t'en revient-tu, Yann?
C'est-tu Sergent Lefebvre?
Oui, voilà. Le Sergent Lefebvre.
Trop fort.
Et puis, à un moment donné...
Des fois, je me fais peur. Je suis pas capable.
Ah oui?
Elle me dit d'acheter quelque chose à l'épicerie, j'oublie tout le temps tout.
Mais Sergent Lefebvre!
Mais Sergent Lefebvre! C'est dans ma tête.
Écoute, et puis, les policiers, c'était comme... Les policiers de la Ville de Québec reçoivent un appel pour une introduction par effraction dans un commerce en cours. Et ils arrivent, ce sont deux policiers, un jeune policier ainsi qu'un policier d'expérience, sur les lieux. Et à ce moment-là, ils réalisent que la police de Sainte-Foy est déjà sur les lieux. Le sergent Lefebvre dit, il n'y a pas de problème, je m'occupe de la scène, je m'occupe de tout. Et là, à ce moment-là, le policier de Québec, plus expérimenté, il se demande quand même, pourquoi tu es là, tu sais? Et à ce moment-là, il se fait malheureusement tirer. Et lorsque ça arrive, le jeune policier qui est à l'intérieur de son véhicule, on parlait des 3F, lui, il fige. Lui, il prend son CB, il appelle Écoute, sur les ondes, nous l'ont fait écouter à Nicolette, là, c'est terrible, là, il crie, c'est inaudible ce qu'il dit, et tout à coup, tu entends le coup de feu et ça se termine là.
T'entends plus rien.
Ça, là, cet événement-là a fait en sorte que lorsqu'il y a eu la fusion des services municipaux, Sainte-Foy, Québec, ça n'a pas été facile parce que ça l'a laissé de grosses cicatrices. Donc, ça revient encore à ce qu'on disait.
Puis Sergent Lefebvre, il y a une histoire très particulière parce que lui, au départ, a été considéré comme un héros. Il y avait une prise d'otage dans le secteur de Sainte-Foy. Puis il y a une dame qui était assiégée, qui avait été prise en otage. La personne avait un couteau autour de la gorge de la dame. Et Sergent Lefebvre a pris son gun au travers de la vitrine puis a tiré sur le gars. Et la dame en a toujours voulu à Sergent Lefebvre en disant « Mais quel irresponsable, il a failli me tuer. Mm-hmm. » Mais dans les médias, ça a sorti, on a un nouveau shérif en ville et c'est Sergent Lefebvre. Puis il était comme une vedette parce qu'il arrivait comme tout le temps le premier sur les vols. Ou quand il y avait des alarmes, il arrivait tout le temps le premier. Puis les policiers disaient « Ah, c'est encore le style Lefebvre qui nous a... »
Plus vite que son ombre.
Qui a été plus vite que nous autres, jusqu'à temps qu'on comprenne, avec cet événement-là, que Lefebvre, lui, c'est un voleur. Puis il en profitait pour voler dans divers établissements, puis c'est lui qui faisait sonner le système d'alarme. Mais c'était sur son territoire à lui. Et dans ce cas-ci, il s'était trompé de rue, si je ne me trompe pas.
C'était limitrophe. C'était à une rue près du territoire de la ville de Québec.
C'est la police de Québec qui a eu l'alarme. Fait que là, il y a deux policiers qui arrivent. Ils voient Sergent Lefebvre. Ils le connaissent, bien entendu. Ils ne se méfient pas. Puis Lefebvre les a descendus. Puis Lefebvre a fait de la prison. C'est une histoire de radio aussi, puisqu'André Arthur avait été mélangé là-dedans.
Oui.
Parce que Arthur a dit, ben, s'il y a deux flics qui ne se sont pas méfiés d'un individu qui ont pogné sur place, c'est probablement parce qu'ils le connaissaient. Puis le chef de police de la ville de Québec avait demandé à rencontrer André Arthur quand il avait entendu ça à radio. C'était dans le secteur de l'Aquarium de Québec, dans le stationnement. Et les deux véhicules s'étaient mis fenêtre à fenêtre. Et le chef de police de Québec avait dit, là, tu as dit quelque chose un matin. Je te confirme que ce que tu as dit, effectivement, les deux policiers connaissaient l'individu. On sait c'est qui l'individu. Je te demande de laisser ça lettre morte. Puis je te garantis que lorsqu'on va procéder à son arrestation, tu vas être le premier à le savoir. Puis Arthur avait fermé sa gueule.
Ouais.
Et quelques années plus tard, parce que Lefebvre a fait de la prison, quelques années plus tard, il était remis en liberté. Et l'imbécile s'introduisait dans les maisons, volait des petites culottes de femmes, puis les sniffait.
Pis ça, cette histoire-là, je m'en souviens, tu vois.
Il volait aussi du linge de femme sur les cordes à linge. Puis il s'est fait pogner encore.
Je m'en souviens de cette histoire-là.
C'est un individu qui était très particulier. Aïe, ça, aïe. C'est incroyable.
Ça répond à ta question. Il a dit, il faut être survigilant quand on connaît la personne.
Ouais.
Ou il faut se dire, ah ben non, on le connaît, on va se croiser les bras.
On connaît jamais quelqu'un complètement, c'est ça, là.
On a tous des squelettes dans le placard, je pense.
Oui, il y en a des pires que d'autres.
T'as des squelettes dans le placard, Danny?
Autant que toi, Yann.
Oh!
Le problème, c'est que moi, j'ai dit à la radio.
Moi, j'ai dit pas.
Ça commence fort.
OK. Hey, Élodie, oui. Audrey, la semaine passée, a glissé une information. Puis là, on s'est dit, il faudrait que Danny nous parle de ça.
Oui.
Audrey semble penser que les médiums, c'est vrai, là.
Oui, je le sais, elle en parle souvent. Ouais. Hein? Ça revient dans ces sujets à
les
Audrey.
Les diseuses de Bonaventure, là, pour elle, ça a l'air que ça peut être vrai aussi. Puis elle s'est posée la question de savoir si les services de police, des fois, encore en 2024, se posaient des questions. Puis s'il n'y avait pas de réponse, bien, ils allaient voir des médiums. Concrètement, c'est déjà arrivé dans le temps. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada ou au Québec, c'est déjà arrivé que des corps de police doivent composer avec des médiums qui disent, exemple, moi, j'ai une image de Cédrica qui est à telle place. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Là. Les policiers de Trois-Rivières ont été inondés par ce type d'appel-là, de médium, de vrai ou de faux. Moi, je pense qu'ils sont tous faux. Mais ils ont dû quand même vérifier si c'était le cas. Christian Page, mon chum Page, l'enquêteur du paranormal, Danny saura nous en parler de cette histoire-là, avait déjà été mis au fait qu'il y avait un certain Monsieur X qui provenait de Montréal, qui avait donné une information tellement précise que les policiers qui ont eu cette information-là ont réussi à retrouver les individus qui étaient portés manquants, dont malheureusement Maurice Vien, de mémoire.
Exactement.
4 ans qui avait été enlevé.
Ouais.
Ils ont réussi à retrouver avec précision l'endroit où c'était. Puis le premier suspect, c'était effectivement M. X, parce qu'il se disait...
C'était tellement précis
si il sait que le corps de Maurice Vien était là, c'est probablement parce qu'il était dans la place, alors que lui n'a jamais quitté l'île de Montréal. Et le corps de Maurice Vien avait été retrouvé pas mal plus loin. C'est déjà arrivé dans le temps, ça. Bon, mis à part l'histoire de M. X, là.
Écoute, je suis d'accord avec toi. 99,999% du temps, les informations en provenance des médiums, on les valide toutes.
Mm-hmm.
OK, ça, c'est sûr et certain.
Fait que vous mettez pas ça automatiquement de côté, vous vérifiez.
Jamais. Dans le cadre d'une enquête, toutes les informations sont validées, même si la personne qui nous donne l'information mentionne être sensitive, à avoir des dons de clairvoyance, être médium. Même dans le cas où que la personne a des troubles de santé mentale, mm-hmm. on valide tout. Exemple, j'ai enquêté le dossier des trois évadés d'Orsainville, projet Écrevisse, où c'est qu'on les a retrouvés, eux, à l'époque...
C'est en hélicoptère.
En hélicoptère. Okay. On les avait retrouvés à l'époque dans un condo à Montréal, sur le chemin de la commune, si je me souviens bien. On a été inondés d'appels des médiums. Tout le monde les voyait, mais personne les a vus à Montréal. Ça vous donne une idée. Mais par contre, on a toutes validé les informations.
Okay.
Est-ce que la Sûreté du Québec, est-ce que la police au Québec, pour répondre à la question, faisons appel, consultons les médiums? Jamais.
OK, fait que ça arrive jamais que vous dites, mettons, OK, on cherche tel corps, on cherche telle personne. On va appeler Mme Bernadette qui elle nous a donné 2-3 bons cues dans le passé. Là. Vous faites pas ça.
Mais ça, c'est carrément Hollywood qui nous fait penser ça.
Bien, carrément. Je pensais que ça se faisait. Je pensais que vous aviez tous une petite chouette, là. Une petite madame, là. Qui est... Je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'est toujours une femme. Puis elle l'a vue. Puis elle vous a donné 2-3 bons cues par le passé. Puis là, vous appelez votre petite chouette. Là.
Mais je pense que c'est Hollywood qui nous a mis ça dans la tête. Puis on voudrait tellement qu'il y ait des gens, tu sais, dans la vie qui aient ce type de don-là. Tu sais, moi, si je l'avais, probablement que je serais un gagnant du Lotomax à chaque semaine. Je te l'annonce.
Bien, là, j'espère.
mais c'est Hollywood. Concrètement, les policiers, du moins, il n'y en a aucun qui va avouer avoir communiqué avec une médium pour en savoir plus sur son enquête.
Fait qu'à toutes les fois, c'est eux qui vous ont contacté.
Oui, ils nous consultent, ils nous contactent régulièrement, nous donnent l'information via la centrale d'information criminelle. Suite à ça, on reçoit l'enquêteur aussi dans des cas de meurtres non résolus, de disparition. On va regarder l'information. S'il nous manque des détails, peut-être qu'on va la rappeler, la dame. Mais si les gens, les auditeurs, s'imaginent qu'on va payer des médiums pour l'information qu'ils nous transmettent, mm-hmm. jamais. Puis souvent aussi dans des cas de crimes qui peuvent être amenés à la cour, je me vois mal arriver devant le juge puis dire « j'ai résolu le dossier suite à l'information d'une médium ». Je ne sais pas jusqu'à quel point ça passera à cour.
C'est ta crédibilité que tu vas perdre automatiquement à ce moment-là.
Ouais,
mais si c'est ça...
Non, tu le dis pas.
Tu le dis pas?
Non, non. Moi, c'est sûr,
mais son crédit à Bernadette de l'autre bord, hein?
Moi, tu enverras des membres de ta famille.
Si Bernadette me fournit une information si précise que je résous le crime... mettons que je suis encore policier actif parce que je suis retraité, il y a 3 choses possibles. La première chose, c'est elle qui a commis le crime.
Mm-hmm.
Je l'arrête, je fais ses droits, elle passe un mauvais quart d'heure en interro.
Comme dans le cas de M. X.
Comme dans le cas de M. X, on va revenir, qui est vraiment l'historique même des médiums dans la police.
Wow.
Soit elle est complice d'un crime,
ou
soit elle a eu les confidences d'une personne,
mm-hmm.
ou qu'elle a été témoin.
Donc, dans tous les cas... Elle va passer un mauvais quart d'heure.
C'est sûr qu'elle va se faire questionner.
Ouais.
Je veux dire, moi, personnellement, je suis neutre, mais moi, je me base sur des faits, des preuves. Est-ce que je crois, est-ce que je crois pas au médium avec la voyance? Je suis très neutre, mais la police, on est très terre à terre.
Mm-hmm.
Je sais qu'aux États-Unis, ils sont plus ouverts qu'au Québec.
Les pratiques sont différentes aux États-Unis.
Ils sont plus ouverts. Ils vont, comme tu dis, avoir 2-3 médiums de confiance qui vont contacter. Mais au Québec, moi, encore cette semaine, quand Audrey m'a dit « j'aimerais ça que tu parles de ça », j'ai appelé l'analyse du comportement. C'est des profileurs criminels qui sont à la Sûreté du Québec avec des psychologues judiciaires et puis tous ceux qui traitent l'analyse du comportement, de l'écriture et tout. Et on dit, Danny, non, ça n'a pas changé, on ne fait pas affaire au médium. Puis le moins possible, on le répond.
Puis je ne sais pas si tu as la réponse à ma question, mais aux États-Unis, est-ce que ça fait partie un peu plus des croyances puis des pratiques acceptées parce qu'eux, ils ont eu des grosses histoires qui ont fait en sorte que ça crée un précédent, qui a fait en sorte qu'on s'est mis à croire à ça un petit peu plus?
Peut-être. En faisant des recherches pour la préparation, j'ai fait un saut parce que oui, le FBI font affaire occasionnellement, très occasionnellement, avec les clairvoyants.
OK, OK.
Mais nous, au Québec, on n'est pas encore rendu à ce niveau-là.
Je comprends.
Mais je pense, Yann, tu voulais qu'on parle d'un dossier quand même très tragique qui fait partie de l'histoire, malheureusement, du Québec. En fait, de la façon que ça s'est passé, les médiums dans la police, il y a eu un dossier en Ontario en 84. C'est la première fois que ça a été recensé. C'est une jeune fille qui s'appelle Christine Jessop, 9 ans. Elle est allée au parc et puis par la suite, on ne l'a jamais revue. Et il y a eu une grosse battue de la part de bénévoles, de policiers. Finalement, ils ont dit « Hey, on va contacter tel gars, il m'a déjà donné de l'information dans le passé, ça s'est avéré véridique. » Donc, ils sont allés voir le médium en question et le médium a dit « Écoute, je la vois, elle est dans un champ agricole environ à 60 km du lieu. Ça se passe pas loin de Toronto, à Queensville. » Et à ce moment-là, les policiers se présentent et effectivement, la jeune fille, malheureusement, elle est décédée, mais elle était là.
Ouais.
Et ce qui est là-dedans, finalement, le criminel, suite à l'ADN, parce que la jeune fille avait été violée au travers de tout ça, et je passe les détails.
Quelle histoire.
Oui, a été... il y a eu un match ADN, c'est drôle, on en parlait il y a deux semaines. Et finalement, lorsqu'on a découvert le suspect, il venait de mettre fin à ses jours, lui. Donc on n'a pas pu procéder à son arrestation.
Dans cette histoire-là en particulier, c'est un médium qui a fourni l'information, qui a permis de trouver
absolument
la petite fille. Et on a écarté complètement la possibilité que celui-ci ait été, d'une façon ou d'une autre, impliqué dans l'histoire comme complice ou encore qu'il y ait eu de l'information. Là.
Ce dossier-là là, était mal foutu du début à la fin.
OK.
Des policiers avaient arrêté en 1984 un autre individu qui a fait beaucoup d'années de prison. Et j'imagine que c'est ça que tu es en train de regarder. Ce gars-là a toujours plaidé son innocence jusqu'à temps qu'à un moment donné, la technologie de l'ADN au début des années 2000 démontre qu'effectivement, c'était pas lui. Et la police de Toronto a dû donner un dédommagement, je pense que c'était 1,8 million, si je ne me trompe pas, à cet individu-là pour tout le temps qu'il a fait en dedans puis pour laver sa réputation. Pour ce qui concerne le Québec, c'est probablement une des choses les plus horribles qu'on a jamais vécues. Ça se passe en 1985, une belle journée d'automne comme aujourd'hui. Trois enfants à Hochelaga-Maisonneuve, un quartier à Montréal, ont été enlevés dans la même journée. C'est jamais vu. On avait un jeune de 4 ans, Maurice Vien. On avait également Sébastien Métivier, 8 ans. Et puis Wilton Lubin, 12 ans. Maurice, lui, il s'en allait au parc avec son ami. Il n'a jamais été revu. Ensuite, les deux autres, Sébastien puis Wilton, eux s'en allaient faire un cours de bricolage, je crois, et finalement ont été enlevés eux autres aussi. Là-dedans, Wilton Lubin, son corps a été retrouvé dans le coin des îles de Boucherville, pour ceux qui connaissent. Je vous passe les détails, là, mais c'était très atroce. La découverte de ce corps-là, les mutilations et tout ce que vous voulez. Sébastien Métivier, lui, son corps n'a jamais été retrouvé. Et pour ceux qui se souviennent, là, quand on était jeunes, souvent nos parents nous faisaient peur et disaient hey, « si jamais tu fugues, ta face va se ramasser d'une pinte de lait. »
Ouais, ouais.
Bon, ben la première face qui a apparu sur une pinte de lait, c'est justement Sébastien Métivier. Puis encore aujourd'hui, en 2024, on n'a pas retrouvé son corps. Ouais.
Que ça doit être difficile.
On n'a jamais retrouvé l'auteur du crime.
Jamais retrouvé l'auteur du crime là-dedans. Quoique, on a une bonne idée, mais il est mort. Il est mort, il s'est suicidé à la Macasa.
Okay.
On est pas mal certain que c'est lui. Et puis, l'organisme Enfant Retour a été créé suite à cet événement-là. Le dossier qui nous intéresse, si on fait un lien avec les médiums, c'est Maurice Vien, le troisième, le jeune de 4 ans. Lui, Maurice, s'en va au parc, porté disparu. Et on parlait encore, il y a deux semaines, d'une technique d'enquête qui s'appelle les holdbacks. C'est-à-dire qu'on conserve certains policiers, 4-5 policiers maximum, une information qu'on ne partage pas du tout, ni aux autres policiers, ni aux journalistes, ni à la population en général. Dans ce cas-ci, Maurice, lui, il était porté disparu, je ne me souviens plus, c'était au mois d'octobre. Mais quelques jours ou quelques semaines plus tard, on a retrouvé à Saint-Antoine sur le Richelieu, je pense que c'était son blouson, qui était dans un terrain abandonné. Et personne ne le savait. Et à un moment donné, il y a eu le fameux Monsieur X, un médium, qui a contacté les services policiers. Et Monsieur X a donné des détails très, très précis que personne ne pouvait savoir, incluant le blouson en question, incluant le lieu où est-ce que le corps a été laissé pour. On parle d'une vieille maison abandonnée. Ce jeune-là, écoute, c'est terrible ce qu'il a vécu. Et puis, il a été retrouvé dans un sous-sol, dans le sol de la maison abandonnée. Et tout ça, M. X l'a dit. Et on s'entend, Hochelaga Maisonneuve, à ce moment-là, c'était le SPCUM, c'est la ville de Montréal qui enquêtait. Mais quand on tombe à Saint-Antoine sur le Richelieu, c'est la SQ. Mm-hmm. Donc, la SQ était appelée à aller sur les lieux avec tout ce que vous pouvez vous imaginer, l'hélicoptère, les recherches et sauvetages, les bénévoles. Et à ce moment-là, on a fait la macabre découverte. Et comme je vous ai dit, à ce moment-là, notre premier suspect, c'était qui?
C'était M. X. Tu sais, hello, on est ici dans le Bourgneuf, puis on parle d'un cas, puis toi, tu dis, Yann, j'ai une vision dans le fin fond d'une cabane de Lanaudière. Ouais. Au deuxième étage de la maison, il y a deux enfants qui ont vécu ça. Qui seraient là, qui ont vécu ça. Il y a encore le couteau qui est ensanglanté sur la table. Les policiers se rendent, puis c'est la bonne description que tu as faite.
C'est sûr qu'ils viennent me chercher, là.
Bye, il a dit.
Ben là, c'est sûr et certain, je comprends donc. Puis à partir de ce moment-là, comment ça s'est poursuivi? J'imagine qu'il a été enquêté, M. X?
M. X a passé de nombreuses heures. Et puis, il n'a pas aimé son expérience. Vous irez voir sur les internets.
Il est encore fessé de ça.
Okay. Il est encore, oui, exact. Il est encore choqué de ça.
Toi, l'as-tu déjà rencontré, Marcel?
J'ai parlé au téléphone. J'ai fait une à deux entrevues avec lui. Okay. Puis, depuis 1984, dans sa tête, ça ne va plus. Là.
Ouais. Hein?
Je ne suis pas sûr qu'il porte la police dans son cœur.
J'imagine.
En même temps, n'importe quel policier aurait fait la même affaire.
C'est certain. C'est certain que moi, on me dit demain matin où est David Fortin, le jeune porté disparu depuis 15 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On me dit exactement il est où. J'arrive sur les lieux, puis je le trouve. Mon premier suspect, c'est celui qui me l'a dit.
Je comprends donc.
Sans ça, je ne fais pas mon travail.
Exact.
Fait que M. X a passé un mauvais quart d'heure, a été interrogé, sa vie a probablement été fouillée de fond en comble, mais on a jamais rien trouvé à propos de cet homme-là.
En fait, on l'a complètement écarté. Il n'y avait rien à voir dans le dossier. Alibi, par-dessus alibi.
Même vous dites que vous avez identifié un suspect, mais celui-ci s'était enlevé la vie.
Donc, à la Macaso.
C'est pour ça qu'il n'y aurait pas eu de suivi nécessairement à partir de ce moment-là. Mais là, ça n'a pas donné envie à M. X de continuer de collaborer avec la police non plus, là.
Je te confirme que non, ouais.
Puis M. X, c'est parce que c'est un surnom que lui-même s'était donné? C'était pour garder son anonymat? Ça vient de où, ce nom-là?
Il n'a jamais voulu donner son vrai nom.
OK.
Avec raison. Puis les médias l'ont surnommé Monsieur X à l'époque.
OK, OK. Mm. Fait que c'est une histoire qui avait sûrement beaucoup fait jaser. Moi, j'étais même pas née encore à l'époque, là, mais j'imagine qu'il y a du monde qui y pense puis qui s'en souviennent de cette histoire-là.
Moi, j'étais pas née à cette époque-là. Ça fait chier entendre ça, hein, Danny.
Ah, non, mais j'ai quand même 34 ans, là. Je veux dire, je suis pas une
petite pépée, là. Vieux, là. Ça donne des coups de vieux quand on entend ça. Point de vue policier, tu viens de parler de David Fortin, puis c'est bien de le rappeler. Il y a une Marilyn aussi qui a disparu dans le secteur de Saint... C'est une fille de Québec, mais qui a disparu dans le secteur de Lévis. Marilyn, pas de...
J'ai pas de vin, moi aussi, dans la tête.
Bon, c'est tout ça? Check donc. On l'a toujours pas retrouvé, Marilyn. Cédrica, bon, on a retrouvé les restes, mais il reste à trouver la personne qui l'a tué, même si on avait eu des...
C'est Bergeron, hein?
Bergeron, Marilyn Bergeron.
Ouais. Exact. Ah.
Cédrica, on a retrouvé les restes de Cédrica, donc on sait qu'elle est bel et bien morte. Pour vous autres, là, quand vous avez ce type d'enquête-là, ça doit vous rester dans la tête, même après votre carrière, quand vous êtes à la retraite. Quand vous réentendez du cas de David Fortin, là, vous avez peut-être travaillé là-dessus. Tu te dis en 2024, bon, ça fait 5 ans que je suis retraité, mais voyons, qu'est-ce qui aurait pu y arriver à ce petit jeune-là? Y repensez-vous encore?
Oui, bien surtout dans des dossiers médiatisés d'importance majeure. Moi, j'ai des dossiers de moindre importance non résolus qui me fatiguent encore aujourd'hui.
Ouais.
Ah oui.
Donc, je me mets à la place, surtout en dossier à Cédrica Provencher. Je connais les enquêteurs. il y en a qui ont changé complètement, qui sont partis du crime majeur, du crime contre la personne, pour s'en aller au crime organisé ou faire leur carrière ailleurs, parce que il n'y avait pas de résultat. On connaît toute l'histoire du suspect potentiel, ouais, qu'on a essayé à plusieurs reprises, qu'on a réussi à avoir avec la pornographie juvénile. Mais à un moment donné, on sait tous que les moteurs vendent la drogue, mais de là à les arrêter, de montrer à la cour que...
Et toutes ces accusations-là pour la pornographie juvénile avaient été laissées de côté aussi, ça avait été abandonné. Donc jusqu'à maintenant, le gars n'aurait rien à se reprocher au sens de la loi. Là. Mais pour les enquêteurs, des fois, quand t'as l'impression que c'est bel et bien lui, mais que t'es pas capable de le prouver hors de tout doute raisonnable, avec les preuves à l'appui, ça doit être extrêmement frustrant.
C'est très frustrant. Bien, tu l'as dit. T'sais, quand on n'a pas de suspect, quand on a la satisfaction d'avoir fait notre travail à 100%, on dort bien la nuit.
Ouais.
Mais quand on se dit, on rumine, comme on dit, puis le soir, on repense à ça, puis on dit « Ah, j'aurais donc dû faire ça. Ah, là, il est trop tard. Ah, j'aurais donc dû poser cette question-là en interro. » Ça, c'est fréquent, là. On fait un brainstorming. On s'en veut beaucoup.
Ça doit.
On se donne pas beaucoup le droit à l'erreur. Ben, on n'a pas le droit à l'erreur.
Comme enquêteur, as-tu déjà rencontré des gens que toi, tu déterminais comme étant des psychopathes, qui n'avaient aucune émotion, puis que les crimes qui leur étaient reprochés, ça venait même pas les chercher, même s'ils avaient fait vraiment du mal à des gens?
Ils vont jouer la game, certains, comme de quoi ça le... Tu sais, une phase de plâtre, ça me fait rien, puis oui. Ils vont jouer cette game-là, mais un psychopathe ou un sociopathe, la seule personne que j'ai croisée dans ma carrière, c'est Gérald Galland. Lui, je peux te confirmer que effectivement, ce gars-là, à part les enfants, lui, il disait toujours « je ne toucherai jamais aux enfants ni aux adultes ». Il y avait un code de conduite. Mais lui, j'ai jamais senti de remords les deux jours parce qu'il est venu à Bécomo. Lorsqu'il était arrêté, il est venu passer une semaine à Bécomo, puis c'était juste des enquêteurs qui devaient le garder parce qu'il était sur la protèque et il y avait un endroit secret où le cacher et tout.
Ça, c'est le tueur à gage le plus prolifique de l'histoire du Canada.
Ouais. Puis lui, ben, je me rappellerai toujours qu'on y faisait prendre des marches. On était toujours deux enquêteurs, puis en aucun temps, je sentais que ce gars-là, il regrettait ses crimes. Pour lui, c'était des bandits qui tuaient, puis il méritait. C'est ça. Puis il a fait de l'argent, puis il était au courant de ça. Puis il savait possiblement un jour il allait se faire prendre. Pas avec une carte de crédit clonée, là, on s'entend, là. C'est ça son erreur, lui. Ouais. Mais non, aucun regret. Ça aurait pu être ton voisin, tu t'en serais jamais rendu compte.
Ben d'ailleurs, c'est ce que les voisins disaient de Gérald Galland. Il savait qu'il ne fallait pas que tu niaises avec lui, mais jamais il aurait pensé que c'était un tueur à gages. Est-ce qu'il correspondait au criminel type? Je veux dire, moi, quand on me parlait de Gérald Galland, je ne l'ai jamais rencontré en personne. Par la suite, on me l'a déterminé, tu sais, quelle grandeur il avait, son poids et tout ça. Moi, un tueur à gages comme ça, c'est une armoire à glace. C'est un gars qui s'impose et
une
tout ça.
Une face de plâtre.
Gérald Galland, c'était un bègue. On parle de son quotient intellectuel qui était très limité. On parle d'un gars qui était quand même assez chétif.
Ah, oh, ouais.
T'attendais-tu à ça quand tu l'as vu?
Du tout.
Il a tué presque 30 personnes, de mettre 27 de mémoire.
Oui, il a fait un meurtre à Port-Cartier, puis j'étais allé avec lui. Mais encore là, c'était pour moi qui le gérait. C'était un gars qui fait quoi, 6 pieds 6, 6 pieds 7? Oui, bégaye. Super 5 poli.
5 et 6,
5 et 7. Si.
Dans ces environs-là,
oui. T'as dit 6 et 6, 6 et 7.
Ah, ça,
c'est
un armoire à glace.
Non, 5 et 6, 5 et 7. C'est à peu près ça.
Tu vois ici, on dit avec 28 meurtres et 12 tentatives.
28, oui.
T'as pas loin.
Ça, c'est ceux-là qu'il a dit.
Oui, c'est vrai.
Mais il prenait énormément de médicaments. Ça, c'est la chose qui m'avait pas mal le plus marqué. Une poche de hockey, là. Il fallait que je lui donne des médicaments quasiment à toutes les 3 heures.
Ah, ouais.
Ouais. Fait qu'il était, très amoché.
Il s'en voulait-tu? Puis en même temps, tu sauras me dire si je me trompe d'individu, mais à un moment donné, il y a eu erreur sur la personne. Il aurait tiré sur un gars qui avait rien à voir avec la gang des motards. Le gars travaillait pour un détective privé à Québec qui est sur la Grande Allée, Michel Corneau, de mémoire. Puis il s'en voulait-tu de ça? Il a quand même tué quelqu'un qui avait pas rapport avec les dossiers. Là.
Moi, il m'en a pas parlé. C'est sûr que le mot d'ordre qu'on avait lorsqu'on le gardait, c'était de pas lui parler du tout.
Okay.
Mais par contre, si lui nous parlait, on pouvait lui répondre.
Mm-hmm.
Donc, on a pas abordé le sujet des meurtres avec lui. Par contre, on a fait la tournée de tous les endroits où est-ce qu'il a commis ces meurtres pour refaire la scène de crime. Et là, à ce moment-là, il parlait plus. Là.
Pourquoi vous n'avez pas l'autorisation de lui parler?
On laisse ça aux enquêteurs, au dossier. Comme moi, j'étais vraiment une tierce personne, je m'occupais plus de la garde, de m'occuper de... Il est en prison, mais il a le droit d'aller fumer, il a le droit de se promener. Donc, c'est pour pas qu'il s'évade.
Oui. Le détective privé que Gérald Galland avait tué par erreur, c'était Luc Bergeron.
Luc Bergeron. Mm. Hey, sais-tu quoi? Il y a quelqu'un qui nous écrit sur Twitch que Galland était un ami de sa belle-famille.
Hey.
Mes beaux-parents sont allés à ses noces sans se douter de rien, évidemment. J'espère. T'es comme, ah, ben en tout cas, ouais. Les noces étaient le fun, on a mangé du bon bœuf.
Puis de voir que c'était un gars qui était capable de décrire avec précision tout ce qui s'était passé. Moi, j'ai vu le film, j'ai vu les documentaires qui ont été faits sur Gérald Galland. Dans une cour à scrap dans le secteur de Beauport, on voit clairement Gérald Galland qui est entouré d'enquêteurs qui dit, voici comment ça s'est passé, voici où était le corps, voici où j'étais positionné. Ce gars-là, bien qu'il avait un QI très limité, était capable de travailler avec une minutie qui était hors du commun, là.
Oui, puis lui, lorsqu'il commettait ses crimes, il avait compris quelque chose. C'est que il rentrait, peu importe le jour, le soir, la nuit, il a assassiné du monde dans des restaurants, là.
Ouais.
Hey! Oui, absolument. Puis il arrivait tranquillement, comme monsieur, madame, tout le monde. Il se plaçait très, très près de la personne du contrat qu'il avait à faire. Tirait ses 5-6 coups de balle. Et lui, il avait compris qu'au moment où les balles partaient, le monde se couchait à terre, le monde faisait des blackouts. Puis il ressortait aussi lentement qu'il était rentré. Puis jamais qu'il se faisait prendre. Puis souvent, en tout cas, il y a un film là-dessus, je l'ai vu, mais ça fait longtemps, il faisait ça à vélo.
Il repartait sur son bike.
Parce qu'il pouvait bien pédaler vite.
Pas de plaque d'immatriculation, plein de points de sortie.
Mm-hmm. Mais c'est embêtant d'être dans un restaurant puis pas mettre tes empreintes digitales nulle part.
Oui, mais lui, il avait ses gants, tout ça, mais non, ouais. il était très allumé là-dessus.
Il avait ses gants, il était en vélo, il avait froid.
Oui, voilà, tout était
c'était
clair.
C'était pour ça, ben oui.
Exact. Dany, on en apprend des affaires
wow,
avec toi.
Oh,
j'aime ça, genre, avec
c'est
les autres.
C'est le fun, t'es un bon collaborateur, on t'apprécie beaucoup. Dany Morissette, qui est un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, avec qui on aime bien jaser, puis je pense qu'on a rendu une jalouse, là, Audrey Pinchot, qui va être en maudit de ne pas avoir été là quand on parlait des médiums.
C'était mon sujet, les médiums!
Avec des enquêteurs. Ah, pauvre Audrey. Ben, t'écouteras ça sera en balado là, dans les prochaines heures, Audrey Pinchot. T'avais juste à pas être en vacances. Merci, Dany.
Hey, merci à tous.
11h10, on fait une courte pause, on vient.
Le garage à Dan.